On est à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 24 mars 2023. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sebulia. Tout d'abord, les titres. Remaniement ministériel en RDC. L'ex-vice-président et ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba à la défense. Et Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Tshisekedi, à l'économie. Au Cameroun, le parti du président Paul Biya remporte tous les sièges du Sénat. En Guinée équatoriale, 7 morts confirmés et 20 autres probablement dus à Marbourg, annonce l'OMS. 8 combattants pro-Iran tués dans des frappes américaines dans l'est de la Syrie après la mort d'un Américain dans une attaque au drone. TikTok sur la sellette au Congrès américain, alors que la plateforme est menacée d'interdiction totale aux États-Unis. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. En RDC, un remaniement du gouvernement a été annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi. Maintenant en fonction, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Mais redessinons l'équipe ministérielle à 9 mois de la présidentielle prévue le 20 décembre prochain, Michel Joseph.
Parmi les nouveaux poids lourds du gouvernement figure à la défense l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. Ex-chef de guerre, M. Bemba avait été condamné à 18 ans de prison par la CPI, la Cour pénale internationale, pour des crimes commis en République centrafricaine avant d'être acquitté en appel en 2018 au terme de 10 ans d'emprisonnement. Il est nommé vice-premier ministre et ministre de la Défense, alors que la RDC, aux prises avec des violences armées depuis près de 30 ans dans sa partie orientale, connaît un pic de tension avec son voisin, le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23 qui occupe depuis l'année dernière de larges pans de la province du Nord Kivu. Autre retour en grâce, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds avant d'être acquitté en appel en 2022, est nommé à l'économie au rang lui aussi de vice-premier ministre. Un remaniement était présenté comme imminent depuis 3 mois. Après la démission fin décembre de 3 ministres membres du parti de l'homme d'affaires, Moïse Katumbi, candidat à la prochaine présidentielle, qui avait quitté le gouvernement en solidarité avec leur mouvement politique en rupture avec la coalition au pouvoir.
Par ailleurs, un contingent supplémentaire de soldats ougandais sera bientôt déployé dans l'est de la République démocratique du Congo et cette fois-là dans le cadre de la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est aux côtés des Kenyans et des Burundais et d'Isango.
Le déploiement se fera avant fin mars, a annoncé les porte-parole d'une délégation de l'armée ougandaise à Goma. Le colonel Mike Walaka indique que les troupes ougandaises envoyées pour cette mission seront basées à Bunagana, Rutshuru, Mabenga et Kiwanja, des localités situées au nord de Goma où les rebelles du M23 se sont emparés des vastes zones depuis l'année dernière, dont la cité de Bunagana, carrefour commercial à la frontière ougandaise. Des soldats kenyans sont aussi déployés dans la zone, mais la population leur reproche de ne pas contraindre les rebelles à se retirer, mais plutôt de cohabiter avec eux. Des Burundais sont aussi déployés en RDC dans les cadres de l'EAC, mais dans les territoires voisins de Masisi, au nord-ouest de Goma, où des accrochages étaient encore signalés hier jeudi. D'autres soldats ougandais sont déjà présents en RDC depuis fin 2021, mais pour des opérations conjointes avec l'armée de la RDC contre des rebelles d'origine ougandaise, les ADF, Forces démocratiques alliées, des opérations qui ont lieu dans la partie nord du Nord Kivu, ainsi que dans la province voisine de l'Ituri.
Au Cameroun, le parti du président Paul Biya, qui dirige le Cameroun sans partage depuis plus de 40 ans, a remporté sans surprise la totalité des 70 sièges du Sénat mis aux voix au suffrage indirect le 12 mars. C'est ce qu'a annoncé jeudi le Conseil constitutionnel. Monsieur Biya, 90 ans, doit également nommer dans les 10 jours qui viennent 30 sénateurs de plus. À l'Assemblée nationale, le parti de Monsieur Biya et ses alliés dispose aussi d'une écrasante majorité de 164 députés sur 180 élus en février 2020. Le bilan de l'épidémie de maladie à virus de Marburg, qui sévit depuis plus de 2 mois en Guinée équatoriale, s'alourdit à 20 morts, a annoncé jeudi l'Organisation mondiale de la santé. Malabo a décompté 6 décès de plus en 10 jours. Jean-Roger Bion.
Les cas recensés de cette fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola ont débordé de la province de Kyentem, où elle avait provoqué les premiers décès connus le 7 janvier, jusqu'à toucher Bata, la capitale économique. À ce jour, on dénombre 20 cas probables et 20 décès, annonce l'OMS, précisant que les nouveaux cas sont signalés dans les provinces de Kyentem, de Littoral et de Centro-Sud, qui ont toutes des frontières internationales avec le Cameroun et le Gabon. Cette expansion laisse supposer une transmission plus large du virus et nécessite d'intensifier les efforts de riposte afin d'éviter une épidémie à grande échelle et des pertes en vies humaines, prévient l'OMS. L'épidémie sévit donc désormais dans 3 des 4 provinces continentales, de l'Est jusqu'à l'océan Atlantique. Les efforts des autorités équato-guinéennes aidées par l'OMS pour contenir le virus dans le Kyentem n'ont donc pas suffi. Des experts supplémentaires de l'OMS seront déployés dans les prochains jours, promet l'organisation onusienne, ajoutant qu'elle aide également le Gabon et le Cameroun à renforcer la préparation et la riposte à l'épidémie. La Tanzanie a annoncé également mardi le début d'une épidémie de Marburg avec 5 morts.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces américaines ont mené des frappes aériennes de précision dans l'est de la Syrie contre des installations utilisées par des groupes affiliés au corps des gardiens de la révolution iranien. Et ce, après une attaque de drone qui a tué un Américain et en a blessé 6 autres, a annoncé jeudi soir le Pentagone. L'attaque de drone a eu lieu jeudi contre une installation de maintenance d'une base près de Asaka, dans le nord-est de la Syrie, selon le communiqué du Pentagone. Les services de renseignement américains considèrent que le drone est d'origine iranienne, a ajouté le Pentagone. Selon la même source, la personne décédée est un sous-traitant américain et les blessés sont 5 soldats et un autre sous-traitant également américain. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 8 combattants pro-Iran ont été tués par les frappes américaines. Le patron de l'application mobile TikTok, Xu Zhou, a fait face jeudi à des élus américains au Congrès des États-Unis. Ces derniers sont remontés à bloc contre la plateforme qu'ils accusent de mettre en danger la sécurité nationale, Mohamed Humfa.
Le patron singapourien Xu Zhou, ancien étudiant de Harvard, a dû s'expliquer au moment où de nombreux gouvernements soupçonnent la plateforme de donner accès aux données des utilisateurs à Pékin. J'imagine que vous allez dire tout ce que vous pouvez aujourd'hui pour éviter ces résultats, a déclaré d'emblée Cathy McNorris Rogers, la présidente de la commission parlementaire de l'énergie et du commerce, qui a convoqué le dirigeant pour une audition. On ne vous croit pas, a-t-elle asséné, précisant que TikTok est redevable au Parti communiste chinois. Le gouvernement chinois ne possède pas et ne contrôle pas ByteDance, la compagnie fondatrice de TikTok. C'est une entreprise privée, a insisté son patron. Je ne crois pas qu'il existe réellement un secteur privé en Chine, a répondu Cathy McNorris, évoquant la loi chinoise qui impose aux entreprises du pays de partager leurs données si Pékin le leur demande. Xu Zhou a reconnu que la plateforme a encore d'anciennes données d'utilisateurs américains stockées sur des serveurs accessibles par des employés chinois. Le dirigeant a promis que d'ici la fin de l'année, toutes les informations liées aux 150 millions d'utilisateurs du pays seraient gérées uniquement depuis les serveurs du groupe texan Oracle situé aux États-Unis.
Les États-Unis ne sont pas prêts à retirer Cuba de leur liste noire de pays soutenant le terrorisme. C'est le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui l'affirme. Le point avec Abdulrahman Dia.
Nous ne prévoyons pas de les retirer de la liste, a déclaré Anthony Blinken, interrogé à ce sujet lors d'une audition devant la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants dominée par l'opposition républicaine. Il répondait à une élue républicaine pour savoir si Cuba avait pris des mesures permettant d'envisager de retirer le pays de cette liste noire. L'ancien président américain Donald Trump avait mis fin à la politique d'ouverture vis-à-vis de Cuba engagée par son prédécesseur Barack Obama et remis le pays sur la liste noire en janvier 2021. À son arrivée à la Maison-Blanche, le président Joe Biden avait promis de revoir la politique américaine en direction de Cuba, mais son discours s'est durci à la suite des manifestations antigouvernementales sur l'île en juillet 2021. Outre celle sur le soutien au terrorisme, Cuba figure dans une autre liste de pays attendant à la liberté religieuse. Malgré cela, les deux pays ont repris les discussions sur les questions de criminalité internationale et migratoire. Une délégation américaine de haut niveau s'est récemment rendue à Cuba.
La Corée du Nord a affirmé vendredi avoir testé un drone d'attaque nucléaire sous-marin capable de déclencher un tsunami radioactif, tout en accusant les exercices militaires américains au sud-coréen d'être à l'origine de la détérioration de la sécurité régionale. Pyongyang a procédé cette semaine à ses propres manœuvres, notamment au test d'un nouveau système sous-marin de lancement de missiles nucléaires, a annoncé vendredi l'agence d'État nord-coréenne. La Minute Éco, Nathalie Barge.
La plateforme panafricaine de commerce en ligne Jumia a signé un accord avec l'enseigne française Leroy Merlin pour écouler ses produits en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Les zones visées sont les petites villes et les marchés ruraux à forte croissance où l'économie repose sur l'agriculture. L'entreprise envisage d'étendre ce modèle au Kenya, au Nigeria et au Ghana. Jumia a enregistré une perte de 49 millions de dollars au quatrième trimestre 2022 et a supprimé plus de 900 emplois. En Égypte, la compagnie pétrolière United Oil and Gas a mis en service le puits de développement H8 sur la concession d'Abou Senan opérée par Koweït Energy. Les travaux de forage ont débouché sur une réserve riche en hydrocarbures dans le réservoir d'Alam El Boueb à 4000 mètres de profondeur. De nouveaux forages sont prévus, notamment au puits de développement ASD3. L'Afrique du Sud risque de connaître une croissance économique nulle cette année, selon le FMI, qui a effectué une mission dans le pays. La croissance du PIB devrait atteindre seulement 0,1% en raison d'une augmentation de l'intensité des coupures d'électricité, estime le fonds. Le PIB s'est contracté de 1,3% au dernier trimestre 2022 et le pays risque d'entrer en récession au second trimestre 2023. Selon le ministère de l'Énergie, les délestages coûtent 50 millions de dollars par jour en perte de production.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les équipes africaines sont sur la brèche avec les éliminatoires de la CAN 2023.
Oui, plein de matchs au programme ce vendredi pour le compte de la troisième journée. Mal embarqué avec 0 points en 2 sorties. La République démocratique du Congo veut se relancer face à la Mauritanie. La Côte d'Ivoire fait face aux Comores au stade de la paix de Bouaké. À suivre aussi Nigeria, Guinée-Bissau, Sénégal, Mozambique, Cameroun, Namibie ou encore Guinée, Éthiopie. Le Burkina Faso reçoit le Togo à Marrakech. Le Mali joue la Gambie et justement, des rumeurs relatives à un boycott des matchs par les Aigles avaient circulé. Ces derniers auraient posé comme condition le paiement de leurs primes avant de jouer face aux Scorpions. Joint par téléphone par notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, le bureau de presse de la Fédération malienne de football a indiqué qu'il n'en est rien, précisant que la question a été résolue, même son de cloche au ministère chargé des sports. Selon Alaï Omar Guindo, chargé de mission, le match aura bel et bien lieu.
Cette troisième journée s'est poursuivie hier jeudi.
La République centrafricaine a battu Madagascar 3-0 pour se relancer dans le groupe E. Le Ghana s'est imposé dans le choc de ce groupe face à l'Angola 1-0 et prend la tête de la poule. Le Soudan du Sud a battu le Congo 2-1. Dans le groupe H, la Zambie a pris la première place grâce à sa victoire 3-1 devant le Lesotho. Dans le groupe I, le Gabon s'est imposé 1-0 face au Soudan, suffisant pour se classer premier avant le match entre la Mauritanie et la RDC. L'Algérie a battu le Niger 2-1 pour prendre le large dans le groupe F avec 9 points en 3 journées.
Merci Yacouba.
Another man picking one.